Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la Turquie pratique-t-elle une guerre contre la liberté de conscience? La romancière turque Asli Erdogan est convoquée demain au tribunal, accusée de propagande pour avoir publié des articles dans un journal pro-kurde, et elle s'est exprimée dans la presse depuis son exil d'Allemagne en dénonçant justement un pouvoir qui, dit-elle, mène une guerre totale contre les droits humains, la littérature et pire encore la conscience par son insistance à la poursuivre. Ce procès sera suivi la semaine prochaine d'autres audiences et verdicts contre des intellectuels ou des personnages de la société civile comme Osman Kavala et des défenseurs des droits de l'homme. Le temps du débat se demande donc ce soir où en est la liberté de conscience en Turquie avec nos trois invités. Katia Roux est responsable chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France. Ahmet İnsel est avec nous en direct depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère que nous remercions de l'y recevoir. Il est économiste turc, professeur émérite à l'université Galatasaray, journaliste, éditeur et auteur d'un livre sur la Turquie d'Erdogan à la découverte. Et avec nous également Selçuk Demir est avocat, il est président des juristes franco-turcs et il a été conseiller juridique du consulat général de Turquie à Paris. Le débat va commencer dans un instant, mais d'abord écoutons Asli Erdogan.
J'accepte ce mot, le dictateur. Peut-être même moi j'appelle ce régime comme un régime fasciste. C'est extrêmement grave. Il suffit qu'une seule personne soit fâchée contre vous. Non seulement vous êtes arrêté,
mais
vous pouvez même être jugé avec demande de perpétuité.
Il
y a des gens qui sont condamnés à la perpétuité juste sur un simple coup de fil. La semaine dernière, un député du HDP, parti pro-kurde, a été condamné à 16 ans de prison. Ça, c'est un exemple de régime fasciste. Je refuse d'utiliser un mot plus léger que ça.
Voilà, donc c'était Asli Erdogan, l'écrivain qui s'entretenait sur France Inter avec Laura Adler en janvier 2018. Elle attendait à cette époque de connaître sa peine. Vous êtes avec nous, Ahmet İnsel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct des studios de nos confrères de France Bleu Isère. Cette parole est très dure, effectivement. Je ne veux pas utiliser un autre terme que fascisme. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette façon de qualifier le régime turc d'aujourd'hui dans ce contexte, justement, qui va nous rassembler autour des libertés publiques?
Si on regarde sur le terrain des libertés publiques, le régime aujourd'hui, le régime que nous appelons l'erdoganisme de plus en plus, c'est un régime autocratique.
Erdoganisme, c'est parce que vous voulez, justement, comme on l'a fait pour le berlusconisme, par exemple en Italie, qualifier le régime par l'intermédiaire du personnage qui le dirige depuis quelques temps.
D'une main de fer et avec tous les pouvoirs réunis dans les mains du chef de l'État, qui est chef du gouvernement, chef du parti majoritaire. Il est chef des armées, il nomme les juges de la haute juridiction. Donc nous sommes dans un régime que nous appelons le régime d'un seul homme, c'est-à-dire un régime autocratique. Et deuxièmement, est-ce qu'il faut l'appeler fascisme? En termes de sciences politiques, c'est discutable parce que le fascisme est quelque chose de très défini au XXe siècle, mais c'est un régime d'arbitraire absolu. C'est-à-dire que vous pouvez, et comme tout à l'heure Asli Erdogan a précisé, vous pouvez, pour avoir tenu tête au pouvoir, pour avoir réalisé des actions qui déplaient le pouvoir, vous pouvez être jugé avec des demandes de peine maximale, c'est-à-dire la perpétuité, mais certains autres vont être libérés, on ne sait pas pourquoi. Et le chef de l'État intervient dans certains cas directement, comme dans le cas de, par exemple, l'ancien du président du Parti démocratique des peuples, qui est incarcéré maintenant depuis plus de 3 ans. Le tribunal l'avait libéré. La Cour européenne des droits de l'homme avait ordonné sa libération immédiate, mais le chef de l'État était intervenu en disant « Il est impossible qu'on puisse libérer cette personne » et immédiatement, les tribunaux ont changé d'avis. Donc, du coup, nous sommes devant vraiment un régime d'arbitraire.
Katia Roux, vous qui appartenez à l'Organisation internationale des droits de l'homme, qui est Amnesty International, comment classez-vous, qualifieriez-vous justement ce régime turc aujourd'hui dans cette matière justement des droits humains tels que les qualifiait Asli Erdogan dans son entretien de la semaine dernière dans la presse?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les autorités turques mènent une répression sans précédent contre la population et contre les voix critiques. Ce qu'il faut savoir, et ce qui a été dit au début en introduction, c'est que effectivement, aujourd'hui, s'exprimer de manière critique mais pacifique vis-à-vis du pouvoir, c'est s'exposer, c'est prendre des risques. Et on constate très souvent que le degré de tolérance d'un gouvernement vis-à-vis des voix critiques est un très bon indicateur justement de sa considération en matière de droits humains. Et donc en Turquie, depuis notamment la tentative de coup d'État de 2016, puis l'état d'urgence qui a été levé en 2018, l'étau se resserre sur les voix dissidentes. Aujourd'hui, au nom de législation antiterroristes qui sont formulés de manière très vague, des personnes, des défenseurs des droits humains, des intellectuels, des avocats, des journalistes, des écrivains, effectivement font l'objet d'attaques. Donc il est très très difficile aujourd'hui de pouvoir s'exprimer librement en Turquie sous peine d'être attaqué frontalement.
Selçuk Demir, même question qu'aux deux autres intervenants de cette discussion. Je rappelle que vous êtes avocat, président des juristes franco-turcs et que vous êtes proche du consulat ou de l'ambassade de Turquie à Paris. Comment qualifieriez-vous ce régime qui est le régime d'aujourd'hui en Turquie?
Écoutez, évidemment que depuis notamment 2015, on a un raidissement en Turquie en matière des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est très allègrement véhiculé ci et là dans les médias internationaux. Et en effet, il y a une période qui est relativement difficile à ce niveau-là. Sauf que dire ça, sans tenir compte de la complexité de la situation en Turquie, c'est quelque part fausser l'analyse, parce que on ne peut pas résumer la situation actuelle des libertés publiques en Turquie seulement sur le prisme de quelques procès comme celui d'Asli Erdogan.
Il y en a quand même pas mal.
Ou d'autres. Concernant ces procès-là, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer très vite. Oui. Évidemment que ces personnes-là bénéficient de la présomption d'innocence. Ici, comme en Turquie d'ailleurs, et là-dessus, je n'ai absolument rien à redire.
Sauf vous que dites, ce qu'il faut également dire. Le contexte particulier, c'est quoi ce contexte particulier?
Ce qu'il faut également dire concernant ces procès-là, c'est que, à mon avis, personne autour de la table n'a eu accès au dossier et n'a eu accès notamment aux actes d'accusation qui ont été prononcés à l'encontre de ces personnes-là. Et en tant qu'avocat, notamment qui intervient dans un certain nombre de dossiers d'ordre pénal, je me garderai bien de faire des réflexions sur le dossier que je ne maîtrise pas. Et à ce titre, j'invite tout le monde à la prudence. De façon plus générale, sur la question des libertés publiques, parce que c'est important de le dire. Vous savez, il faut savoir d'où l'on vient en Turquie. En venant en responsabilité en 2002, Erdogan a initié toute une série de réformes en matière de liberté publique et de droits de l'homme qui ne s'étaient jamais vues en 80 ans de République. Et ça, il faut le rappeler. Parce que l'affirmation des identités ethniques et religieuses, les droits culturels qui ont été octroyés aux Kurdes, notamment les chaires d'enseignement de la langue kurde qui ont été ouvertes dans les universités, le droit à des chaînes télévisées, l'utilisation en public de la langue, ce sont des choses qui ont été permis par l'action d'Erdogan et qui ne s'étaient jamais vues depuis 80 ans.
Mais alors, ça, oui, vous dites, c'est le début d'Erdogan, et alors, depuis 2015,
oui,
ça s'est durci.
Depuis 2015, il y a eu un durcissement, mais ce durcissement, il faut également l'expliquer. Pour que vos auditeurs puissent comprendre.
Alors expliquez, parce que vous dites qu'il y a des
raisons. Il y a un certain nombre de facteurs internes et internationaux qui expliquent ce raidissement. Et permettez-moi juste deux minutes pour pouvoir vous
l'expliquer. Un peu moins pour laisser tourner la...
De façon exhaustive pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, nous en France, c'est très facile de commenter la situation en Turquie. Nos voisins, c'est la Suisse et le Luxembourg. On n'a pas ce luxe en Turquie qui a comme voisin notamment la Syrie, 900 km de frontière avec une guerre civile que vous connaissez, l'Irak, donc une situation internationale extrêmement tendue. Le conflit syrien a notamment amené sur le plan de la sécurité en Turquie toute une série de problématiques avec la recrudescence et le renforcement d'un certain nombre de groupes terroristes qui ont en effet nécessité une riposte du pouvoir judiciaire turc, de même que la France a dû, à une moindre échelle, certes, sauf que la France n'a pas 900 km de frontière avec les Syries, riposter suite, par exemple, aux attentats du Bataclan. Les attentats du Bataclan, monsieur, en Turquie, à partir de 2015, on en a eu toutes les semaines. Donc c'est avec cette force et détermination particulière qu'il fallait que le pouvoir judiciaire turc réagisse.
D'accord. Sur ce point, Katia Roux, j'imagine que ni Asli Erdogan, ni Osman Kavala ne sont accusés d'avoir participé à des attentats du type du Bataclan, et pourtant ils sont
pas ce que j'ai dit.
Justement, je sais bien que vous ne l'avez pas dit.
Peut-être plusieurs choses en réponse. Effectivement, cet argument sécuritaire, on le connaît, et de notre point de vue, il ne peut pas venir justifier des violations des droits humains. Jamais. Il y a un certain nombre de cadres à respecter, et y compris dans des situations complexes, ça je veux bien l'entendre, on ne peut pas agiter systématiquement l'argument antiterroriste pour venir tacler des libertés fondamentales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux procès qui ont été mentionnés, ce sont des procès emblématiques. Ce ne sont pas n'importe les personnes qui sont visées, vous l'avez dit, ce sont des défenseurs des droits humains. Derrière, il y a aussi l'idée d'envoyer un signal. Et quant aux pièces aussi qui peuvent être portées au dossier, on a pu avoir accès à un certain nombre d'éléments du dossier. Si je prends l'exemple du procès de Taner Kilis et des 10 d'Istanbul, effectivement... Il faut peut-être expliquer, effectivement. Taner Kilis est donc le président honoraire d'Amnesty International Turquie. Il était président à l'époque de son arrestation, donc en juin 2017.
Et le verdict devrait être prononcé le 19.
Absolument.
Le 19 février.
Le 19 février. Et donc, il a été arrêté, accusé de liens avec des organisations terroristes. Le chef d'inculpation reposait essentiellement sur le fait qu'il aurait téléchargé sur son téléphone une application qui s'appelle Bylock et qui serait utilisée par le mouvement guléniste. On a attendu plus d'un an.
Il faut expliquer aussi à nos auditeurs le mouvement guléniste, qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est accusé justement d'avoir fomenté, en particulier par le pouvoir de M. Erdogan, d'avoir fomenté le coup d'État du 15 juillet 2016.
Absolument. Et selon donc les autorités turques, ce mouvement utilise cette application Bylock. Et donc les personnes qui téléchargeraient cette application se rendraient coupables, effectivement, ou seraient en lien avec des organisations terroristes. Donc Taner Kilis, il a fallu attendre un an pour que la police fournisse un rapport détaillé qui conclut qu'il n'y a aucune trace, effectivement, de cette application. Ce qui corrobore les conclusions de 4 rapports indépendants qui avaient été menés et qui montraient, effectivement, que l'accusation ne retenait sur rien.
Brièvement, Demir, vous voulez répondre à Katia Roux, je donne ensuite la parole à Ahmet Inses.
Je veux bien entendre qu'il est insupportable que la justice soit longue. Malheureusement, elle l'est également en France. Et on a toute une série d'affaires de terrorisme, madame, dans lesquelles des personnes présumées innocentes sont impliquées et attendent 4, 5, 6 ans.
C'est pas tellement la durée.
D'avoir une décision.
C'est que il n'y a aucune preuve. Élément aggravant.
Selon
le rapport de police.
En tout cas,
il n'y a aucune preuve.
Je me garderai bien de commenter des affaires judiciaires pour lesquelles je ne suis pas en l'état, et personne autour de cette table, d'avoir accès complet au dossier.
Ahmet Inses.
Je suis désolé, j'ai accès complet à quelques dossiers les affaires citées. D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie sur deux cas emblématiques. C'est l'attentat de Demirtas automne dernier et Osman Kavala en décembre dernier.
En demandant sa libération immédiate d'Osman Kavala et qui n'a pas...
En demandant la libération immédiate d'Osman Kavala, et les tribunaux refusent d'appliquer cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais plus important encore, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie en disant que les éléments qui sont dans le dossier, qui justifient l'ouverture de ce procès et sa détention, sont insuffisantes. D'autre part, la Cour a condamné la Turquie pour une deuxième chose dans les deux cas de Demirtas et Kavala, c'est-à-dire l'article 18 de la Convention, c'est-à-dire procès à but politique, en utilisant directement les injonctions du président de la République aux tribunaux pour les cas concernés. Là, nous sommes vraiment dans la suppression de l'état de droit. La confusion totale entre la séparation de pouvoir, entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif indirectement, et le chef de l'État à l'ouverture de l'année judiciaire a osé dire que en tant qu'il est chef d'État, il est le chef de l'institution judiciaire. Mmh. Là, nous sommes dans un régime vraiment où un homme peut décider de la vie ou de l'emprisonnement d'une personne. Et nous savons par ailleurs, malheureusement, qu'une partie de ces procès sont directement coordonné par le palais présidentiel. Et puis une deuxième chose que je voudrais ajouter. Il y a plus de 2000, voire 2500, 3000 procès ouverts contre des personnes pour injure au chef de l'État. Parce qu'ils étaient mécontents, parce qu'ils ont utilisé une phrase critique vis-à-vis du chef de l'État, immédiatement, il y a des procès contre eux, dans certains cas avec une période de détention provisoire. Là, nous sommes dans un régime terriblement répressif, évidemment.
Oui, alors sur ce point, Selçuk Demir, il faut rappeler, puisque j'évoquais le cas d'Osmane Kavala, qu'il a une peine de prison à vie qui est requise contre lui, qu'il est incarcéré depuis 2 ans, qu'il est accusé avec 15 personnes de tentative de renversement du gouvernement, et que ça n'est pas à l'occasion de ce procès, de ce coup d'État de 2016 qu'il est accusé, mais c'est à propos du mouvement qui précède, en 2013, qu'on appelait le mouvement de Gezi, donc qui s'est déroulé sur une place d'Istanbul. Il faut le mentionner parce que c'est une autre affaire, d'une certaine façon, que l'affaire justement du coup d'État de 2016.
Alors moi j'ignorais que M. Insel avait, au-delà de toutes ses qualités, en plus la qualité d'avocat, et encore plus la qualité d'avocat de M. Kavala, et avait accès au dossier de manière aussi précise. Je le félicite parce que je me demande comment, dans ces conditions-là, avec le secret de l'instruction, il a pu l'avoir, mais peu importe. Toujours est-il que on peut pas non plus résumer la question des libertés publiques en Turquie sous le seul prisme du procès Kavala ou sous le seul prisme du procès de la personne qu'on a présentée tout à l'heure. Je voudrais par exemple vous dire que la semaine dernière, la Cour constitutionnelle turque a rendu dans des procès pénals de plusieurs personnalités des décisions de remise en liberté. Il s'agit de la Cour constitutionnelle turque. Donc on a un mécanisme juridictionnel en Turquie qui également marche et qui également tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette même Cour constitutionnelle turque qui, par exemple, il y a encore quelques jours, a décidé que la décision d'interdiction concernant Wikipédia devait être levée. Donc on a bien également en Turquie des mécanismes de protection des libertés fondamentales qui marchent et qui montre bien que l'état de droit, même si en effet il y a un raidissement, fonctionne toujours. J'aimerais également noter que si en effet un certain nombre de personnes sont poursuivies, notamment pour insultes envers le président de la République, il y a également toute une série de personnes qui sont mises hors de cause après une instruction. J'espère bien que Mme Erdogan puisse être remise hors de cause à l'issue de son procès. C'est ce que je lui souhaite, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais il ne faut pas non plus penser que le système judiciaire turc est un rouleau compresseur et une machine à condamner les personnes. Ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, dans le procès d'Asli Erdogan, toute une série de personnes ont été mises hors de cause, ce qui montre bien que la justice turque travaille à charge et à décharge.
Katia Roux.
Oui, alors deux choses, effectivement, sur la Cour européenne des droits de l'homme. Je redis ce qui a été dit. On ne peut pas, dans un sens, aller suivre la recommandation et la décision et pas dans l'autre. Pourquoi pour Osman Kavala? Effectivement, la décision était très claire. La détention a été décidée illégale. Et donc, effectivement, la demande de libération immédiate devait avoir lieu et elle n'a pas eu lieu. Donc là, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a deux poids, deux mesures. Encore une fois, sur les procès, en plus d'avoir accès à certains documents, j'insiste aussi sur le fait qu'on peut également être présent et on a des équipes, des délégations qui sont présents et qui observent aussi les procès et qui ont pu témoigner d'un certain nombre d'irrégularités, d'avocats qui ne pouvaient pas prendre la défense, de questions qui étaient posées où la réponse n'était pas attendue, des personnes qui étaient sorties de la salle. Enfin, il y avait un certain nombre d'irrégularités qui ont été pointées. Et encore une fois, j'insiste sur le côté emblématique de ces procès. Quand on parle de Taner Kılıç, c'est pas Taner Kılıç, président d'Amnesty International Turquie, c'est Taner et les 10 d'Istanbul avec tout ce qu'ils représentent derrière et le fait de pouvoir effectivement envoyer un signal extrêmement puissant, dissuasif envers toutes celles et ceux qui voudraient à un moment donné critiquer une position ou une politique.
Alors, Selçuk Demir,
je me demande si on va continuer à évoquer le problème des libertés publiques en Turquie qui est extrêmement complexe sous le seul prisme de deux procès. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas limiter ça à ça.
Alors, allez-y.
Et moi, j'indique, et là-dessus, je voudrais également ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment concernant les explications du raidissement de la situation des libertés publiques en Turquie. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'au-delà de la recrudescence de ces groupes terroristes, donc occasionnés à la suite du conflit syrien, donc le PKK, qui, vous le savez, est une organisation terroriste qui est reconnue comme telle par la France, l'Union européenne, mais également les États-Unis. On a Daesh, qui a occasionné nombre d'attentats depuis maintenant plusieurs années, qui ont causé des centaines de morts sur le territoire turc, mais on a également le mouvement Gulen, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui a comploté cette tentative de coup d'État en juillet 2016.
C'est le régime d'Erdogan qui dit qu'il a, pour l'instant,
c'est
comploté.
Pas seulement le régime d'Erdogan. Voilà. Il y a également un certain nombre d'observateurs internationaux qui le confirment et un certain nombre de cadres du mouvement guléniste qui le confirment également. Mais on a un pays qui a été en proie à une tentative de coup d'État en juillet 2016 avec plus de 250 morts, une tentative d'assassinat du président de la République et un bombardement du Parlement. Je veux dire, il y a peu de pays qui résisteraient à toute une série d'attaques de ce type et qui, malgré ça, maintiendrait des systèmes d'état de droit et de contrôle juridictionnel aussi efficaces.
Ahmet İnsel.
D'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est que j'ai défini tout à l'heure le régime par un régime d'arbitraire. Effectivement, c'est un régime qui n'est pas encore totalitaire, au sens où toutes les institutions travaillent comme un seul homme, comme dans une seule direction. Il y a des tiraillements au sein même du système judiciaire, avec des faucons qui veulent renforcer encore plus la répression, et il y a quelques cadres de AKP, par exemple le ministre de la Justice, qui essaye de faire quelques réformes, mais les réformes sont repoussées en permanence. Le fait que le Conseil constitutionnel donne des décisions qui cassent certaines des décisions d'arbitraire et justement confirme l'arbitraire du pouvoir. Parce que la Cour constitutionnelle, par exemple dans le cas de Kavala, a décidé que la détention était justifiée, la Cour européenne a cassé. Dans le cas de Demirtas, il a fait la même chose. Dans d'autres cas, il a ordonné des libérations. Il y a ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune prévisibilité juridique en Turquie. Aucune garantie juridique en Turquie. Nous sommes dans un régime d'aléa total. Vous pouvez tomber peut-être sur des juges qui sont beaucoup plus sensibles aux questions des droits de l'homme, mais dans beaucoup de cas, je vais citer le cas de Kavala, depuis à peu près un an que le procès a commencé, les juges ont été changés 3 fois. Il y a des cas où les juges ont été immédiatement dessaisis parce que ils ont pris des décisions contraires aux volontés du pouvoir. Alors là, parler de l'état de droit, c'est quand même injurier le concept.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Soğuk akşamların kaderini ömür, boğuk yarınların keder nöbeti gönül. Bir yağmurdan, bir mahmurdan hesap sorar çamur, bulur yönü, arar günü, günü, günü.
Olmazlara yandım bugün. Biliyorum çok yokluk var ama çok zengin var yani. Kime göre diyemedin evimize niye gece girdiğimizi soran herkese söve söve bitemedi yargılayanlar. Sevemedi bizi hiç sevgiyi yaftalayanlar. Korkuyu pompalayanlar hele güne rezilliğimiz olsun süzene. İçiyoruz kime ne varsın diye yaşamayın mılın ha? Delimine delimine gerimine diye düşün ya da sus gir evine. Sine sine geliyor bu gençlik güveniyor yüreğine kalemine. Olmaz diyon ya sen geleceğim tükürüp polisin sirenine. Olmaz diyon ya yine sen gelip ateş edeceğim kendine. Bir dert denizine gömülür dünyada sesimize çığlık yaslamadık biz. Dizimizi görmeyi düşündük hep düşümüzü artistlik taslamadık. Yüzümüzü kanatlı heyecanımız hep hiç gücümüzü senle kıyaslamadık. Özümüzü anlara armağan ettik bulunan yolları saklamadık ki.
Yol yine kapandı yine bulandın niye bulandık yaralarla. Sigaram bana küsme,
bana küsme.
Sol omuzumdan bir serçe havalandı yaralardan kanadın bana küsme.
Bana küsme. Alors je vais très mal prononcer le morceau que nous venons d'entendre, Malzara Yandem, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut prononcer.
Tout à fait.
Voilà, donc je brûle avec ce que je n'ai pas, du groupe Osby avec Gülşah Durui comme chanteuse et qui dit entre autres, je me sens cerné par les interdictions que cette société m'impose, il ne reste plus que toi et moi aujourd'hui, c'est une question de couple en l'occurrence qui était évoquée dans cette chanson. On pourrait peut-être avancer dans notre discussion autour de la question de la liberté publique, des libertés publiques en Turquie aujourd'hui, avec ce cas particulier, enfin moi que je ne connaissais pas avant de m'y intéresser pour cette émission, c'est-à-dire ce cas où on a perdu un certain nombre de ses prérogatives en tant que citoyen dans la société, en particulier le droit d'avoir un passeport ou le droit de trouver un emploi public ou privé. Qu'est-ce que ça signifie, Katia Roux, et ça rentre dans quel cadre justement de condamnation? Ça n'est pas de la prison, mais c'est autre chose.
C'est autre chose et c'est peut-être un peu moins visible, mais c'est tout aussi handicapant et condamnable. Effectivement, on a pu constater dans la foulée de la tentative d'attentat de coup d'État, pardon, de 2016, effectivement que il y a eu une purge dans la fonction publique notamment. Plus de 100 000 fonctionnaires ont été révoqués de leur poste. Et fin 2018, on en avait encore plus de 100 000 qui étaient en attente de réintégration avec un statut qui était un petit peu en balance. Et ce sont des personnes qui continuent de faire l'objet d'une interdiction de travailler dans le secteur public, qui ne peuvent pas quitter le pays, leur passeport ayant été annulé. C'est extrêmement handicapant dans la vie de tous les jours et également pour pouvoir retrouver une vie normale. C'est aussi ce qui se passe par exemple pour les journalistes qui ont perdu leurs emplois suite à la fermeture d'un certain nombre de médias, toujours pareil dans le cadre de la répression qui a suivi les mesures d'état d'urgence. Et donc ce sont des journalistes qui ne peuvent plus exercer, qui se retrouvent sans emploi et qui aujourd'hui sont en difficulté.
Ahmet İnsel, ça fait partie des types de restrictions des libertés publiques. Comment le qualifie-t-on?
Ce sont des décisions qui sont prises par l'administration. La possibilité que l'administration, par décret, licencie des personnes sans qu'il y ait un procès et qu'ils soient totalement démunis de droits, sous diverses d'ailleurs accusations qui ne sont pas définies. Et qui peut être appartenance à l'organisation de la confrérie Gulen ou appartenance à un syndicat ou d'être fiché par les responsables des services secrets ou d'être désigné comme suspect par le chef de l'établissement. De ces personnes-là, il y a eu quasiment pas de procès pour leur licenciement, licenciement d'office, les passeports qui sont annulés sont pas annulés par les tribunaux, mais par la décision administrative. D'ailleurs, ils ne sont pas annulés, ils sont marqués perdus. Hein, si vous voulez chercher votre passeport, ils vous disent, mais votre passeport est perdu, donc vous pouvez pas utiliser, vous pouvez pas sortir. Donc vous voyez bien que ce sont des mécanismes extrêmement arbitraires, des mécanismes qui ont été de bric-à-brac montés, mais il y a un autre cas, les fameux plus de 1185 universitaires, avant la tentative de coup d'État, avaient signé, dont moi d'ailleurs, une pétition pour appeler la paix sur la question kurde en Turquie, avec des termes critiques durs contre le gouvernement, évidemment. Et sur ces personnes, la plupart ont été licenciées par l'administration de l'enseignement supérieur d'office. Leurs passeports ont été saisis. Après, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, dans certains cas, ont effectivement cassé ces décisions, mais les personnes ne rentrent pas, ne retrouvent pas encore leur poste. Ouais. Ils sont toujours suspendus. Nous sommes dans un régime qui vraiment utilise, d'ailleurs, Si on réfléchit en termes de l'état de droit, les décisions qui doivent être exclusivement du domaine du judiciaire sont utilisées par l'administration, par le pouvoir public, alors même que l'état d'exception a été annulé.
Selçuk Demir, qu'est-ce que vous répondez à ce type d'attaque ?
Un certain nombre de rectifications doivent être précisées à votre antenne parce que des imprécisions à ce niveau-là qu'il faut corriger. Déjà, si en effet, au lendemain de la tentative du coup d'État, plus de 100 000 fonctionnaires ont été en effet suspendus, plus de 60 000 ont été réintégrés.
pourquoi on a eu ce temps de la suspension et ce temps de la réintégration? Tout simplement parce que le procès pénal, monsieur, a un temps. Et que quand on mène une enquête contre une personne qu'on soupçonne d'avoir appartenu à une organisation qui a organisé un coup d'État ayant occasionné des centaines de morts, eh bien tout cela, malheureusement, dure. Et pendant qu'on enquête sur cette personne-là, d'autant plus si c'est un fonctionnaire de l'État qui donc a une obligation de loyauté envers son employeur principal, à savoir l'État, forcément qu'on peut, dans ce cadre-là, prendre des mesures de contrôle judiciaire, hein, dans le cadre de dossiers ouverts par une instruction, par un juge d'instruction, et il se peut en effet que dans le cadre de ces mesures de contrôle judiciaire, comme en France, on puisse prendre le passeport de ces personnes-là et les mettre à la disposition de la justice pendant un certain temps.
Oui.
Ce sont des phénomènes, donc suspension par l'administration, mesures de contrôle judiciaire qui existent également en France.
Bien sûr, non, mais c'est, on connaît.
Et sur lesquelles, me semble-t-il, Monsieur Hunsel est beaucoup moins critique quand il s'agit notamment de juger la situation de la France qui, je le rappelle, suite notamment aux attentats du Bataclan, a interpellé plusieurs milliers de personnes, a procédé à de très nombreux actes d'investigation, notamment au domicile des personnes, sans pour autant que ces personnes-là soient forcément impliquées dans des organisations terroristes. La France a dû lutter à son échelle contre ces organisations terroristes. La Turquie, qui est beaucoup plus exposée que la France, a dû faire de façon proportionnelle. C'est malheureusement la situation du terrain qui le commande.
Ahmet Hunsel et puis Katia Roux sur cette question. Brièvement, l'un et l'autre.
D'abord, la plupart du temps, les décisions d'interdiction, de saisine de passeport ne sont pas prises par les juges d'instruction parce qu'il n'y a pas d'enquête ouverte. Ce sont des décisions à telle enseigne que ce n'est pas des décisions de contrôle de judiciaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'administration ne peut pas faire figurer sur les fichiers des passeports cette décision de contrôle judiciaire. Et ils ont inventé comme quoi le passeport a été perdu, donc annulé.
Non,
sinon, ils n'avaient pas besoin de procéder à ce subterfuge. Deuxièmement, je voudrais revenir sur l'esprit en permanence 2016. D'abord, la répression ne date pas de 2016 ni de 2015. La répression date progressivement à partir de 2011. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, pourquoi en 2017, pourquoi en 2018, ouvrir un procès sur les événements Gezi qui datent de 2013? Et en plus, sur ces événements
Gezi...
C'est
le procès d'Osman Kavala et de ceux qui sont avec lui, effectivement.
De 15 autres. Et pourquoi, les événements Gezi ont été jugés un an et demi après, et les tribunaux avaient jugé l'acquittement la plupart du temps, et d'ailleurs dans la quasi-totalité des cas. Et d'ailleurs, est-ce que c'est dans l'état de droit, on peut ouvrir un procès deux fois de suite, alors que le premier cas, il y a eu un acquittement? Là-dessus aussi, nous sommes dans un arbitraire total.
Merci.
Qui fait que 2013, les événements de Gezi, cinq ans après, ont été décidés que c'était une insurrection en vue de renverser le pouvoir?
Katia Roux.
Alors deux choses. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres, effectivement, parce que de toute évidence, on n'a pas les mêmes. Pour nous, sur les 129 411, on est très précis, salariés qui ont été révoqués, seuls 3 799 de ces révocations ont été annulées par la suite. Je termine. Par la suite, au moyen de décrets exécutifs ultérieurs, tandis que d'autres, effectivement, ont dû après se présenter devant une commission spéciale qui a été établie en janvier 2017. On va rentrer un peu dans les précisions, mais c'est important.
Il existe un recours.
Alors, très précisément, voilà ce recours et je vais expliquer en gros les proportions par rapport à ce... Très bien, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour échanger dessus. Donc effectivement, il y a une commission d'enquête qui a été établie. Cette commission d'enquête a reçu 125 600 demandes entre le 17 juillet 2017 et le 5 septembre 2018. Au cours de ces deux années, la commission a examiné 50 500 demandes, dont 3750 ont été approuvés. Voilà les proportions. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on peut peut-être questionner ce recours et nos conclusions témoignent du fait que La commission qui a été mise en place est entachée d'un manque d'indépendance, de longs délais d'attente, d'absence de garantie qui permet aux personnes de réfuter ces allégations. Donc ça, c'est par rapport à cet aspect-là. La deuxième chose que je voulais dire,
et
on n'en a pas parlé aussi, c'est que par rapport aux libertés civiles et individuelles également, il y a tout un pan de liberté comme la liberté de réunion, la liberté d'association qui sont également attaquées dans le pays. Et c'est extrêmement important de pouvoir aussi revenir dessus.
C'est le choc des mires.
Alors, tout ce tableau extrêmement sombre qui est dépeint par mes interlocuteurs m'amène quand même à me dire que l'opposition en Turquie est quand même sacrément forte. Parce que malgré cette atmosphère qu'on décrit comme étant complètement autoritaire, aux dernières élections municipales, l'opposition de gauche a gagné deux très grandes villes, a tenu des meetings dans la rue sans aucun problème, a eu des débats télévisés tous les soirs sur les chaînes publiques et privées turques. Peut-être, madame, que ne maîtrisant pas le turc, vous n'avez pas pu...
Je ne maîtrise pas le turc, je confirme.
Vous n'avez pas pu les écouter, mais moi, j'entendais...
J'ai des collègues qui maîtrisent
des hommes politiques de gauche qui échangeaient avec les hommes politiques du pouvoir sur des débats liés au municipal. Et la gauche turque, l'opposition turque, a gagné des villes en Turquie. Ce qui montre bien la vitalité de la société civile. Ce qui montre bien que les partis d'opposition peuvent s'exprimer et que là-dessus, le tableau apocalyptique qui est présenté aujourd'hui ne correspond pas à la réalité.
Ahmet Tinsel, très brièvement, parce que nous arrivons bientôt au terme de cette discussion. Effectivement, les villes d'Ankara et d'Istanbul ont été gagnées par l'opposition.
C'est pourquoi je n'utilise pas le terme du fascisme ni du totalitarisme pour le cas turc. Nous sommes dans un régime où le pouvoir d'Erdogan, l'erdoganisme, vous avez parlé de berlusconisme, mais je dirais aussi le poutinisme, c'est un peu la même chose. Il y a des élections, les élections sont libres, la participation électorale est très très élevée, mais la campagne, évidemment, n'a rien à voir en termes d'égalité des chances parmi les candidats, mais néanmoins, la société civile résiste par rapport à l'Erdogan. Et ce qui rend encore plus furieux Tayyip Erdogan, c'est qu'il n'arrive pas à obtenir au-delà de 45-50% des voix et qu'il est obligé désormais d'avoir l'appui du parti d'extrême droite nationaliste raciste du mouvement de Delugri. Donc du coup, là, nous sommes dans une dérive où le pouvoir devient de plus en plus autoritaire et sous la pression en même temps de son allié d'extrême droite nationaliste, devient de plus en plus autoritaire, interventionniste, au fur et à mesure de perte de sa base électorale et de son influence. Nous sommes dans un cercle vicieux classique d'un fin de régime autoritaire qui peut prendre malheureusement très longtemps.
Merci beaucoup Ahmet Tinsel. Je rappelle que vous étiez donc en direct depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère. Un dernier tout petit mot, mais vraiment tout petit, Katia Roux.
Un tout petit mot simplement par rapport à cette question de l'opposition. Effectivement, l'opposition a gagné la municipalité à Istanbul. Pour autant, est-ce que c'est une victoire aussi qui va dans le sens de plus de liberté d'expression? Malheureusement non, la police n'est pas sous le contrôle de la municipalité. Les maires du samedi ne peuvent toujours pas se rassembler. Et donc, effectivement, on constate encore des attaques frontales.
C'est un peu le cas à Paris. Il faut rappeler que la préfecture de police...
Ce n'est pas parce que la gauche a gagné Istanbul que la police nationale doit être aux ordres de la municipalité.
Cette chose d'Emir, il y a une question que j'aurais voulu voir aborder, on n'a pas eu le temps de le faire, évidemment. C'est la question des exils. Effectivement, un pays qui perd beaucoup de ses citoyens, beaucoup de ses élites intellectuelles qui s'en vont en exil, c'est tout de même un peu grave, un peu difficile, non?
J'entends bien votre question. Après, vous savez, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le peuple turc, à travers cette tentative de coup d'État, a vécu un véritable traumatisme. Et les personnes qui sont restées et qui sont restées fidèles à la République, elles, ces personnes-là, continuent à y vivre et continuent à voter, à participer à la vie publique.
Tous les exilés ne sont pas des gens qui ne sont pas fidèles à la République.
À la société civile, et c'est très bien comme ça.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté de débattre tranquillement autour de ces micros. Donc, Katia Roux, je rappelle que vous êtes responsable chargée de plaidoyer des libertés à Amnesty International. Selçuk Demir, vous êtes avocat et vous êtes président des juristes franco-turcs. Et Ahmet Tinsel, vous êtes économiste, vous êtes également donc professeur émérite à l'université Galatasaray, journaliste et éditeur et spécialiste, évidemment, de la situation en Turquie. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier, Manon Prissé, à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Assia Ralid.